RFI, 6h30 à Paris, 5h30 en temps universel. Bonjour Paul Lonsin-Spinelli.
Bonjour Julien Coquel-Rouen, bonjour à tous.
À la une, cette nouvelle médiation qatarienne pour faire avancer les négociations sur le conflit dans l'est de la RDC.
Selon les informations des RFI, des délégations de Kinshasa et du M23 sont à Doha. La capitale du Qatar avait déjà accueilli il y a une dizaine de jours la rencontre entre Félix Tshisekedi, le président congolais, et son homologue rwandais Paul Kagame. En Guinée, le chef de la junte Mamadi Doumbouya gracie l'ex-dictateur Moussa Dadis Camara. L'ancien dirigeant avait été condamné en juillet dernier à 20 ans de prison pour son rôle dans les massacres du stade de Conakry en septembre 2009. Coup d'envoi de la campagne électorale aujourd'hui pour la présidentielle du 12 avril au Gabon. 8 candidats sont en lice. Mais c'est bien le chef de la transition, Brice Clotaire-Oligui Nguema, qui fait le plus parler de sa candidature dans l'espace médiatique. Et puis le programme alimentaire mondial s'alarme de la baisse des financements américains. Selon le PAM, 58 millions de personnes risquent de perdre une aide vitale. Le Qatar, plateforme de médiation privilégiée par les acteurs du conflit dans l'est de la RDC. Après avoir reçu le 18 mars dernier la rencontre entre le président congolais Félix Tshisekedi et Paul Kagame, son homologue rwandais, Doha accueille en ce moment, selon nos informations, des délégations de Kinshasa et du M23 soutenues par le Rwanda, en RDC toujours. La province de l'Ituri, elle, héberge depuis maintenant un mois des troupes ougandaises. En coordination avec l'armée congolaise, elle lutte déjà depuis des années contre le groupe armé ADF. Hier, les états-majors des deux pays se sont rencontrés dans la capitale provinciale Bunia pour détailler leurs opérations dans les territoires de Djougou et Mahagi contre un autre groupe armé, la CODECO, coopération pour le développement du Congo. Paul Lorgerie.
Dans un communiqué concis diffusé lors des discussions, le porte-parole de la province, le lieutenant Jules Ngongo, a indiqué que FARDC et UPDF coordonnent leurs opérations après les avoir évaluées. En jeu, l'extension ou non de l'opération Shujaa. Selon nos informations, des propositions ont pour l'heure été envoyées aux hiérarchies respectives. L'objectif premier étant de sécuriser la route nationale 27, voie d'approvisionnement de Bunia. Depuis quelques semaines, des affrontements entre les miliciens de la CODECO et les forces de défense du peuple ougandais sont enregistrés chaque jour, non loin de cette route, autour de la localité de Fataki dans le territoire de Djougou. Pour une source à Bunia, la position de l'Ouganda en Ituri est difficilement lisible. Leur récente arrivée dans la province, conjuguée à la création d'un nouveau groupe armé à Kampala et aux déclarations sur X du chef d'état-major, avait créé la confusion, développe notre source. L'officiel ougandais, fils de Museveni, avait qualifié cette zone frontalière de zone d'influence de l'Ouganda. Et si le lieutenant général Jackie Chaligonza, adjoint de l'état-major des FARDC sur place, a appelé les groupes armés à déposer les armes, un observateur craint que ces opération n'entraîne des conséquences pour les populations. Depuis janvier, plus de 200 civils ont été tués et 100 000 personnes ont été déplacées dans la province selon les Nations Unies.
Paul Lorgerie. Au Soudan du Sud, le porte-parole du gouvernement a confirmé que Riek Machar, premier vice-président du pays, avait bel et bien été placé en résidence surveillée mercredi après son arrestation. Le camp du président Salva Kiir accuse Riek Machar d'avoir fait obstruction à l'accord de paix de 2018 en planifiant les attaques contre l'armée régulière sud-soudanaise dans le nord-est du pays début mars. Hier, Raila Odinga, ex-premier ministre kényan nommé médiateur par le président William Ruto, est arrivé à Djouba pour y rencontrer Salva Kiir. En Guinée, Moussa Dadis Camara échappe à 20 ans de prison. Le dirigeant de transition, le général Mamadi Doumbouya, a accordé une grâce présidentielle à l'ex-dictateur condamné fin juillet dernier à 20 ans de réclusion pour crimes contre l'humanité. Sa responsabilité de commandement dans la commission des massacres de septembre 2009 au grand stade de Conakry avait alors été établie. La grâce a été annoncée hier dans un décret lu à la télévision nationale guinéenne. Lisa Fabian.
C'est par la voix du ministre secrétaire général de la présidence que les Guinéens ont appris que Moussa Dadis Camara va bénéficier d'une grâce présidentielle accordée par le général Mamadi Doumbouya. La proposition a été soumise par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, également chargé de l'application du décret. Cette décision est motivée par l'état de santé fragile de l'ancien dirigeant. À la tête de la Guinée pendant 12 mois entre 2008 et 2009, Moussa Dadis Camara a été condamné fin juillet 2024 4 à 20 ans de réclusion pour crimes contre l'humanité dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre 2009 au Grand Stade de Conakry. Ce jour-là, au moins 156 personnes avaient été tuées et des centaines d'autres blessées dans la répression d'un rassemblement de l'opposition dans un stade de la capitale guinéenne et alentour. Cette semaine, 8 mois après ce verdict historique, les autorités guinéennes ont publié un décret annonçant la prise en charge des frais d'indemnisation des victimes du massacre. À ce jour, les 400 parties civiles attendent toujours réparation.
Explication de Lisa Fabian. Ils ont 2 semaines pour convaincre une majorité de Gabonais de glisser leur nom dans l'urne. La campagne pour la présidentielle du 12 avril débute aujourd'hui. Avec notamment ce meeting organisé au stade de l'amitié de Libreville par les soutiens de Brice Clotaire-Oligui Nguema, le chef de la transition. C'est l'un des 8 candidats en lice. Déjà omniprésent dans l'espace médiatique, le général a déjà réussi à rassembler un grand nombre de soutiens politiques avant même le début de cette campagne, François Mazet.
La campagne Oligui Nguema promet plusieurs dizaines de milliers de personnes, gradins et pelouses remplies. Une démonstration de force autour d'un candidat qui a obtenu le ralliement de la quasi-totalité des forces politiques. Caciques du pouvoir déchu, anciens opposants et grandes voix de la société civile ont rejoint les plateformes et associations de soutien qui ont fleuri dans le pays. Pour toutes les chapeautées, le rassemblement des bâtisseurs a été créé, sa direction confiée à Ange-Kevin Zigou. Mais derrière la figure du renouvellement qu'est cet avocat connu pour son engagement contre l'ancien régime, les coordinations régionales ont un air de déjà-vu, intégrant de nombreux cadres de l'ex-parti au pouvoir. Une sorte d'état PDG sans le PDG, commente un des derniers convertis. Face au rouleau compresseur, Alain-Claude Bilibinzé ne retient pas ses coups contre la transition qu'il accuse de tromperie et de gaspillage des ressources. Il espère capitaliser sur les frustrations du quotidien, comme les délestages ou les mouvements sociaux, pour faire oublier son image de pilier de l'époque Ali Bongo. Jusque-là, les 6 autres candidats doivent se contenter des miettes. En termes de visibilité, ils ont 2 semaines pour tenter de se faire connaître et entendre de leurs compatriotes.
François Mazet, pour analyser les enjeux de ce scrutin du 12 avril au Gabon, Florence Bernot, enseignante à Sciences Po Paris et spécialiste de l'Afrique centrale, est l'invité d'RFI ce matin. Rendez-vous dans un peu plus d'une heure et demie. Entretien à retrouver également à tout moment sur RFI.fr. 2025, année d'élections au Cameroun, également des régionales et une présidentielle doivent être organisées. Cette dernière est prévue pour le mois d'octobre. Paul Biya, 92 ans, en aura alors passé 43 au pouvoir. À la fin de l'année dernière et au début de cette année, plusieurs évêques s'étaient exprimés individuellement pour 2 motifs distincts, soit pour dire qu'une candidature de l'actuel dirigeant à 1/8 mandat n'était pas réaliste, soit pour dénoncer la mauvaise gouvernance et les difficultés du quotidien des Camerounais. Hier, la conférence épiscopale du Cameroun a publié une longue lettre, un appel à une élection transparente, juste et apaisée, que résume le président de la conférence épiscopale, l'archevêque de Bamenda, Andrew Nkea.
Notre appel, c'est pour assurer la transparence pendant cette élection. Pas d'intimidation. On parle souvent dans notre pays que les gens volent les votes, qu'on ne fait pas toutes les choses-là qui vont diviser notre pays, qui vont amener les violences. Mais il y a beaucoup de souffrances, pas de l'eau potable, pas d'électricité. Partout, et il y a un peu de malaise. Il y a beaucoup de discours de haine et nous ne voulons pas qu'on base les élections sur les tribus, qu'on ne donne pas les positions au gouvernement basées sur les tribus des personnes. Que cet discours de haine qui détruit notre pays s'arrête.
Propos recueillis par Amélie Tullet. L'enveloppe de 27 milliards de dollars promise lors du sommet Nutrition pour la croissance qui s'est achevé hier à Paris sonne comme un espoir dans un contexte de coupe dans l'aide internationale. Cette semaine, une nouvelle alerte a été lancée par l'Agence de l'ONU pour les réfugiés et le Programme alimentaire mondial. Le PAM qui a annoncé hier une chute de 40% de ses financements pour cette année par rapport à l'an dernier. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés estime, lui, que près de 13 millions de personnes déplacées, dont près de la moitié sont des enfants, risquent de voir leur état de santé se dégrader. Magali Lagrange.
Une crise sans précédent selon le Programme alimentaire mondial. La baisse alarmante des financements s'ajoute à un nombre record de personnes dans le besoin. 58 millions d'entre elles risquent de perdre une aide vitale, estime le PAM. La crise du financement humanitaire est exacerbée par des dépenses publiques de santé en baisse dans les pays d'accueil, prévient pour sa part le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Conséquence, une augmentation du risque d'épidémie, de malnutrition, de maladies chroniques et de problèmes de santé mentale. Les effets se font déjà sentir dans plusieurs pays. En République démocratique du Congo, le budget santé du HCR a été réduit de 87% par rapport à l'an dernier. Les conséquences sanitaires de la baisse des financements pourraient être dévastatrices, prévient l'agence onusienne. Les établissements de santé sont débordés, confrontés à une grave pénurie de personnel médical et de fournitures. Des cas de choléra ont été enregistrés. Autre pays touché, l'Éthiopie. Les opérations de nutrition dans 7 sites de réfugiés de la région de Gambela ont dû être fermées le mois dernier. Le manque de financement menace de plonger 80 000 enfants de moins de 5 ans dans une situation potentiellement mortelle.
Magali Lagrange, le Programme alimentaire mondial qui alertait hier aussi à propos d'un risque de famine sévère dans un camp de réfugiés au Malawi. 60 000 personnes sont concernées. En raison de la baisse vertigineuse de ses financements, le PAM risque de cesser de fournir de l'aide aux occupants du camp de Dzaleka, à une quarantaine de kilomètres de la capitale Lilongwe. Un site qui abrite principalement des Congolais, Rwandais et Burundais. Des plaies ouvertes il y a 78 ans, pensées par un long travail de mémoire. À Madagascar, ce 29 mars marque l'anniversaire de l'insurrection de 1947. Un soulèvement de rebelles qui avait commencé à Mouramang, à une centaine de kilomètres de la capitale, avant d'embraser toute la côte est de l'île. 18 000 soldats français avaient alors été déployés pour riposter. Pendant 21 mois, certains d'entre eux vont exécuter sommairement, torturer des civils, brûler des villages entiers. Un souvenir encore vif chez les Tananarivien, Pauline Le Troquier.
Le 29 mars, nos ancêtres étaient morts à cause des Français quand on a fait la guerre.
C'est avec ces mots que Miarn, 10 ans, résume l'histoire de Mars 47. Son école, située à Ambudzatouv, en plein cœur de la capitale, donne directement sur la stèle commémorative de l'insurrection. Mais à la différence de ses camarades, ce jeune garçon connaît bien le symbole de ce monument. Lui a été bercé par le récit familial des événements.
Mon arrière-arrière-grand-père, il a fait la guerre. Et il est mort. C'était ma grand-mère qui m'a raconté cette histoire. Chaque 29 mars, on vient dans sa tombe pour célébrer sa mémoire et dire qu'il est dans nos cœurs.
Chaque année, le 29 mars est décrété férié et chômé dans le pays. À la télévision et à la radio, des chansons célèbrent l'héroïsme des combattants malgaches. De quoi réveiller un sentiment de patriotisme légitime et nécessaire pour Vloul. Mais cette passante pointe une récupération politique de la classe dirigeante.
Cet événement est utilisé par les politiciens pour prouver qu'ils sont patriotes, alors que selon moi, ils ne le sont pas vraiment. Quand on voit la situation dans laquelle se trouve le peuple, je pense que la classe politique fait plus attention au paraître qu'au bien du peuple.
Ces événements représentent dans la mémoire collective l'un des épisodes les plus douloureux de la colonisation de l'île. Sans présenter d'excuses officielles, l'ancien président français François Hollande avait reconnu en 2016 les crimes commis par la France. À l'époque, la répression coloniale avait fait entre 12 000 et 23 000 victimes, selon les historiens. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Et tout de suite, Julien Coquel-Rohem pour la suite d'RFI Matin.
Merci Paul Lonsin-Spinelli, on vous retrouve tout à l'heure. Et RFI Matin continue avec le journal des sports.